un jour nouveau pour t'aider à vivre une vie chrétienne comblée et victorieuse. Fort de toutes les promesses divines, un jour nouveau t'enseigne à mettre en pratique les principes bibliques qui te permettront de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Animé par Esther Ntoto et présenté par Camille Toto, une production de Light of Africa Network.
Un jour nouveau sous les antennes de ta radio préférée. Un jour nouveau. Ton expérience personnelle avec Dieu. Chapitre 8. Adapter ta vue à Dieu. Émission 36. Des adaptations sont nécessaires. Ta vie est-elle la même qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Certes non. Beaucoup de changements ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Si tu as déjà quitté la maison pendant un certain temps pour aller aux études, par exemple, il y a eu des adaptations dans ta vie. Dans le cas où tu as eu un nouvel emploi, où tu t'es marié, ou par exemple tu as déménagé, tu as dû faire d'autres adaptations. Rien ne reste le même. Dans la vie s'opèrent toujours des changements et des adaptations. Il est de même en ce qui concerne la relation avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Si tu cherches à savoir et faire la volonté de Dieu, et si tu ressens que Dieu est en train de te demander de faire quelque chose qu'il veut accomplir à travers toi, tu devras faire des adaptations radicales dans ta vie. Voilà le sujet dont nous allons parler pendant cette semaine.
Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que nous avons commencé notre série d'études intitulée « Ton expérience personnelle avec Dieu ». Chaque semaine, nous avons étudié sept réalités, sept étapes qui figurent dans le cheminement pendant que nous apprenons à connaître et faire la volonté de Dieu. La première réalité, à titre de rappel, pour ceux qui nous suivent régulièrement, mais aussi pour permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre d'être sur la même page, la même longueur d'onde que nous, la première réalité est que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Il est à l'œuvre dans ton voisinage. Il est à l'œuvre dans ta communauté, tout comme il travaille dans ton village. De la même manière qu'il œuvre dans la ville, dans ta province, dans ta nation, dans ton école ou même là où tu travailles, en fait, partout où tu es, Dieu est à l'œuvre. Dieu veut ramener toute sa création à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Toute l'humanité doit connaître Jésus, l'accepter comme Seigneur et sauveur. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il choisit d'œuvrer à travers des personnes comme toi et moi, des serviteurs ayant la volonté d'être coéquipiers du Père Céleste. Et avant de pouvoir nous utiliser, Dieu poursuit une relation intime avec nous, une relation particulière. Comme nous l'avons répété à maintes reprises dans nos émissions précédentes, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il vient nous chercher. Ce n'est pas nous qui le cherchons, ce n'est pas nous qui initions cette relation, mais c'est bel et bien lui qui entre en communion et en communication avec nous. Dès qu'une relation intime est établie, Dieu à ce moment-là nous invite à collaborer avec lui dans son œuvre. Alors comment pouvons-nous connaître et savoir ce que Dieu veut faire? Nous avons appris que Dieu nous parle par l'entremise du Saint-Esprit. Il nous parle aussi à travers sa parole, la Bible, les Saintes Écritures, pendant que nous lui adressons attentivement nos prières pour écouter la voix intérieure par laquelle il s'exprime. Dieu parle aussi à travers les circonstances que nous rencontrons, les événements de la vie commune, les attitudes quotidiennes, les circonstances que nous rencontrons de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ce sont des situations favorables et quelquefois défavorables. Il nous parle aussi à travers l'Église, le corps du Christ. Quand Dieu parle, il se révèle. Il révèle aussi ses desseins et il révèle tout aussi bien ses voies, ses intentions et ses manières d'agir. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous avons appris la semaine dernière que cela nous amène à une crise de croyance. Cela nous amène à revoir ce que nous croyons sur Dieu, nos attitudes vis-à-vis de Dieu, notre conception de Dieu, notre pensée sur Dieu. Et ce que nous croyons, nous devons l'ajuster et l'adapter. Est-ce que nous croyons que Dieu est réellement ce qu'il affirme être ? Est-ce que nous croyons que Dieu peut réellement faire ce qu'il affirme être en mesure d'accomplir ? Il ne faut pas oublier que les tâches que Dieu nous donne sont toujours à la hauteur de Dieu seul. Ce qui signifie que ce sont des tâches qui peuvent être accomplies seulement quand Dieu œuvre avec et à travers nous. En d'autres termes, ce sont des tâches qui sont à la dimension de Dieu. En effet, quand Dieu t'invite à œuvrer avec lui, y répondre exige de la foi, parce que nous ne voyons pas le Dieu qui nous parle, mais nous savons fermement qu'il existe. Et cette foi nous amène à entreprendre une action appropriée. Cela nécessite une réaction de notre part. Et cette action démontre la grandeur de la foi que nous avons en Dieu. En d'autres mots, lorsque tu réagis à ce que Dieu est en train de te dire, cela prouve à quel point, à quel niveau, à quelle hauteur ta foi en Dieu est profonde, à quelle hauteur elle s'élève, à quelle profondeur elle s'étend, et à quel point ta foi en Dieu est sérieuse. Dès aujourd'hui, nous allons ensemble examiner ou étudier la sixième étape dans le processus de faire la volonté de Dieu. Avant de pouvoir rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire, il nous faut faire des ajustements et des adaptations radicales dans notre vie. Beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, aimerions que Dieu nous parle et nous donne une tâche, un devoir, une mission, quelque chose à accomplir. Mais nous ne sommes pas sûrs si nous voulons réellement adapter notre vie de manière radicale. Nous aimerions rester tels que nous sommes et continuer à faire notre travail de manière habituelle, monotone des fois, et répétitive comme nous le faisions auparavant. Selon la Bible, eh bien cela est impossible. Chaque fois que Dieu parlait aux gens dans les Saintes Écritures sur une matière précise qu'il voulait faire ou sur une œuvre précise qu'il voulait accomplir à travers ces personnes, eh bien ces mêmes personnages bibliques devaient effectuer un grand changement dans leur vie, dans leur mode de vie. Ils devaient adapter leur vie à Dieu. Après qu'ils aient subi des adaptations nécessaires, les ajustements requis, Dieu accomplissait ses desseins et ses voies à travers eux. En fait, répondre à l'invitation de Dieu constitue un moment de crise dans la vie de la personne qui est invitée par Dieu. La personne reçoit une invitation de la part de Dieu, mais cette invitation cause à cette personne d'effectuer des ajustements dans son mode de vie. À ce moment-là, on se pose des questions. Des questions telles que celle de savoir ce qu'on croit sur Dieu. Si on croit que Dieu est réellement ce qu'il affirme être, et s'il peut réellement accomplir ce qu'il dit qu'il est en mesure d'accomplir à travers nous. En fait, adapter ta vie à Dieu est un autre moment décisif quand tu apprends à connaître et faire la volonté de Dieu. Alors, prendre une décision devient à ce moment-là un moment très critique, un moment crucial. Et dans ta vie, cela peut être un moment historique. Et lorsque tu acceptes de faire ces adaptations, ces ajustements, ces changements, ces modifications dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu peux avancer à l'étape suivante, qui est en fait une obéissance inconditionnelle. Néanmoins, si tu refuses de faire les adaptations requises ou les ajustements nécessaires, tu pourrais perdre même ce que Dieu te réservait. Quand tu crois que Dieu peut réaliser ce qu'il promet, tu manifestes ta foi à travers ce que tu fais. Ce que tu fais démontre à quel niveau se situe ta foi. Et en fait, l'action s'ensuit. Ton obéissance fait partie de l'action que tu entreprends. Ton adaptation et ton obéissance seront coûteux. Cela va te coûter à toi, mais cela va aussi coûter à ceux qui t'entourent, ceux qui te sont proches, ceux qui dépendent de toi. Nous en parlerons en fait en détail dans les prochains jours. Maintenant, considérons certaines personnes bien connues dans la Bible et examinons les différents ajustements auxquels ils ont dû faire face et voyons ce qu'ils ont dû faire quand Dieu leur a parlé. Noé, par exemple, ne pouvait continuer la vie comme d'habitude. Sa vie ne pouvait plus être une monotonie comme il l'avait menée auparavant. Lorsque Dieu lui a demandé de construire une arche, eh bien tout a changé. Un bateau assez grand pour contenir sa famille et une paire de chaque espèce d'animaux sur la terre devait être construit selon les normes que Dieu allait instituer et instaurer et en fait communiquer à Noé. Pour Abraham, il était impossible de continuer à vivre dans Ur ou à Haran et en même temps devenir le père du peuple hébreu en Canaan. Il était impossible pour Moïse de rester dans le désert en s'occupant des moutons et en même temps se présenter devant Pharaon en Égypte. David a été contraint de quitter son troupeau de moutons pour devenir le roi du peuple hébreu. Pour Amos, le prophète, il a été obligé et contraint de quitter sa maison et ses arbres de sycomore en vue de prêcher en Israël. Jonas, lui, a été contraint de laisser sa maison et de surmonter ses préjugés contre les pécheurs en vue de prêcher à Ninive. Que dirait-on de Pierre? Que dirait-on d'André, de Jacques et de Jean qui, eux, ont dû abandonner leur pêche en vue de suivre Jésus? C'était leur profession. Matthieu, quant à lui, a dû abandonner son isoloir de collecte d'impôts en vue de devenir le disciple de Jésus-Christ. Saul, qu'on a après surnommé Paul, lui, en ce qui le concerne, était obligé de changer l'orientation de sa vie. Ce changement devait s'opérer afin qu'il soit en mesure d'être utilisé par Dieu pour prêcher l'évangile aux païens. Comme tu le constates, un changement énorme et une adaptation ont été faits par chacun de ces personnages. Certains d'entre eux ont dû quitter leur famille et leur pays. D'autres se sont débarrassés des idées préconçues et ont opté pour d'autres choix. D'autres encore ont dû renoncer à leurs desseins, à leurs idéaux, à leurs désirs. Ils ont tout cédé et leur vie entière, ils ont dû l'adapter à Dieu. Dès que ces gens avaient subi ces adaptations nécessaires, Dieu a commencé à accomplir ses desseins à travers eux et réaliser des merveilles par leur entremise. En effet, chacune de ces personnes a compris que l'adaptation de sa vie valait la peine. Es-tu prêt à céder tout et suivre Dieu? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu puisses réciter avec moi le verset de la semaine. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, verset 33. Écoute-le bien parce que tu vas le mémoriser et pendant toute cette semaine, tu vas le répéter dans ton cœur. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Je reprends, le verset de la semaine se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Ce sont des paroles assez dures. Mais Jésus ne pouvait dire autrement. Jésus lui-même a dû faire des adaptations radicales. Des changements qu'il a dû opérer sont considérables. Vous savez que dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous lisons « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Imagine ça. Jésus s'est privé de sa place et de toute sa richesse qu'il avait au ciel en vue de mourir sur la croix à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Il a dû opérer des changements radicaux, des adaptations radicales. Si tu veux devenir le disciple de Jésus, eh bien, tu n'as pas de choix. Tu devras renoncer à toi-même afin de suivre Dieu. Avant que tu aies franchi ce pas, tu ne peux être utile à Dieu. Le plus grand problème ou la plus grande difficulté lorsque tu suivras Jésus se trouve au niveau où tu seras en mesure d'abandonner et de renoncer à toi-même et à ce que tu possèdes pour le suivre. Nous, les êtres humains, nous avons tendance à vouloir sauter l'étape d'adaptation et aller à la croyance et à l'obéissance à Dieu. Si tu veux le suivre, tu ne feras pas pareil choix. Cette étape est incontournable. Lisons ensemble dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, le chapitre 55 et le verset 9. Peut-être connais-tu ce passage. En effet, dit le Seigneur, il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre, dit le Seigneur. C'est vrai, les voies de Dieu diffèrent des nôtres. Et c'est pour cette raison que quand nous nous décidons à le suivre, nous devons d'abord adapter nos vies à ses voies. Dans la Bible, il y a un récit qui concerne deux hommes qui ont été invités à rejoindre Dieu. Mais curieusement, leurs réponses étaient très différentes l'une de l'autre. Examinons si nous pouvons tirer une leçon de la réponse d'Élisée dans l'Ancien Testament et celle d'un certain jeune homme riche dans le Nouveau Testament. D'abord, l'histoire du jeune homme riche qui nous est contée dans l'Évangile selon Luc chapitre 18, versets 18 à 27. Lisons ensemble. Dans la version du français courant, nous lisons. Un chef juif demanda à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de meurtre. Ne vole pas. Ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Le jeune riche voulait la vie éternelle, mais il n'a pas voulu faire ce que Jésus lui a demandé. La richesse de ce jeune homme était pour lui plus importante. Jésus le savait. Jésus savait aussi qu'il était impossible d'aimer Dieu entièrement et aimer l'argent en même temps. Jésus lui a demandé de se débarrasser de ce qui était devenu pour lui son Dieu. C'était sa richesse. Le jeune chef n'a pas fait d'adaptation nécessaire. Pour cette raison, il a raté l'expérience personnelle de la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, la vie éternelle est définie en ces termes. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. L'amour de l'argent de ce jeune chef et son avidité l'ont rendu idolâtre. À cause de cela, il a manqué la connaissance du véritable Dieu et de Jésus-Christ que Dieu avait envoyé. Il a voulu la vie éternelle, mais il ne voulait pas ajuster, adapter sa vie au véritable Dieu. Quelle tristesse ! Le prophète Élisée a réagi différemment à l'invitation de Dieu. Voyons comment il a réagi dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 15 à 21. Lisons ensemble, 1 Rois 19, versets 15 à 21. Mais le Seigneur lui dit, « Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphath, d'Abel-Mehola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont à l'épée d'Azaël seront mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. » Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphath, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Alors Élisée abandonna ses bêtes et courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » « Mais tu peux retourner à ton travail, » répondit Élie. « Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses deux bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et devint son serviteur. Élisée a dû abandonner sa famille et sa vie de planteur en vue de suivre Dieu. Il a brûlé son matériel de plantation et il a tué ses 24 bœufs qu'il utilisait pour cultiver ses champs. Il a cuit la viande de ses bœufs pour nourrir les gens de son milieu. Cela signifie qu'il n'allait plus reprendre ses anciennes activités. Après avoir fait ses adaptations nécessaires, il était en mesure d'obéir à Dieu. En conséquence, Dieu a œuvré à travers Élisée pour accomplir certains des plus grands signes et des miracles prodigieux enregistrés dans l'Ancien Testament. Il a fait des ajustements nécessaires dès qu'il reçut l'appel de Dieu. Dieu n'a pas utilisé Élisée pour accomplir des miracles avant qu'Élisée n'ait fait ses adaptations nécessaires.
Nous venons de suivre le chapitre 8, adapter ta vue à Dieu.
Veux-tu te rendre entièrement disponible à Dieu ?
Les adaptations sont nécessaires.
Veux-tu adapter
Avant de nous quitter, j'aimerais nous rappeler le verset de la semaine.
Rappelle-toi ceci.
Quand Il se Dieu trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 33.
Et à cause de cela,
ainsi donc,
il te
ajouta Jésus,
affronter ou faire face
aucun
à une crise
de vous
de
ne peut être mon disciple
pour y réagir,
s'il ne renonce
il faudra
pas
de la foi.
Il à faudra tout ce la qu'il foi. Possède.
Et ta foi sera manifestée
Merci
par
de nous avoir
action.
Suivis et nous vous retrouvons réaction, très prochainement sur la même chaîne à la même heure. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Le premier acte consistera à adapter ou à ajuster ta vie à Dieu. Le deuxième acte sera ton obéissance à ce que Dieu te demande de faire. Donc l'ordre est le suivant, la foi, l'adaptation et puis l'obéissance. À demain.
Nous venons de suivre le chapitre 8, Adapter ta vue à Dieu. L'émission 36. Des adaptations sont nécessaires. Avant de nous quitter, j'aimerais nous rappeler le verset de la semaine. Il se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous retrouvons très prochainement sur la même chaîne à la même heure. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. Auditrice, auditeur, merci de nous avoir suivis. Si tu as une question, une action de grâce, un sujet de prière ou encore un témoignage, n'hésite pas à nous contacter au numéro suivant 099 711 98 20. Je répète, 099 711 98 20. Ou encore par courrier électronique camille@helloafrica.net. Ou encore info@unjournouveau.org. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet www.unjournouveau.org. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ceci est pour toi, un jour nouveau.